Vous écoutez On lit pour vous.
L'histoire improbable d'une scientifique d'exception. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 1er octobre 2025 dans la presse. Grâce à Charles Darwin et à son célèbre ouvrage L'origine des espèces, publié en 1859, nous savons que les hommes et les singes partagent un ancêtre commun. Mais il aura fallu attendre les travaux de Jane Goodall dans les années 1960 pour mieux comprendre le lien qui unit ces deux espèces. La célèbre primatologue s'est éteinte mercredi, à l'âge de 91 ans. Qui est Jane Goodall? Née à Londres en 1934, elle est devenue la plus célèbre primatologue du 20e siècle. Jane Goodall a été l'une des premières scientifiques à étudier les chimpanzés dans leur environnement naturel et non en captivité. Ses travaux ont chamboulé nos connaissances sur les grands singes, avec lesquels l'homme partage un ancêtre commun. L'Institut Jane Goodall a appris, mercredi 1er octobre 2025, que Jane Goodall, messagère de la paix de l'ONU et fondatrice de l'Institut Jane Goodall, est décédée de causes naturelles. Elle était en Californie dans le cadre d'une tournée de discours aux États-Unis, a annoncé l'organisme dans une publication sur le réseau Facebook. L'annonce de la disparition d'une des scientifiques les plus célèbres de la planète a immédiatement suscité des réactions partout dans le monde. Aujourd'hui, la famille des Nations Unies pleure la disparition de Jane Goodall. Cette scientifique, défenseuse de l'environnement et messagère de la paix des Nations Unies, a œuvré sans relâche pour notre planète et tous ses habitants, laissant derrière elle un héritage extraordinaire pour l'humanité et la nature, a réagi l'ONU sur le réseau X. Les principaux médias, tant au Canada, aux États-Unis ou en Europe, ont rapidement repris la nouvelle, soulignant l'importante contribution de cette femme exceptionnelle que rien ne destinait à une carrière scientifique. De secrétaire à primatologue. Née à Londres le 3 avril 1934, Jane Goodall a d'abord cumulé des emplois comme serveuse et secrétaire au début de la vingtaine. Passionnée par l'Afrique et le monde animal, elle se trouve au Kenya en 1957, lorsqu'elle fait la rencontre de Louis Leakey, paléoprimatologue reconnu pour ses travaux sur l'évolution de l'espèce humaine. Elle devient sa secrétaire. Sans aucune formation scientifique, mais motivée par une insatiable curiosité, Jane Goodall deviendra une pionnière dans la recherche sur le monde animal, particulièrement sur les chimpanzés. Dans les années 1960, elle s'installe en Tanzanie, où elle étudiera quotidiennement les comportements des chimpanzés. Elle observe entre autres des singes fabriquant et utilisant des outils pour attraper des termites. Elle remarque aussi qu'ils ne sont pas strictement végétariens, contrairement à la croyance populaire, mais qu'ils tuent aussi des cochons sauvages pour se nourrir. Ses travaux ont notamment permis de mieux comprendre comment les chimpanzés socialisaient entre eux, élevaient leurs petits et exerçaient leur leadership au sein du groupe. Grâce à ces découvertes, on a pu confirmer les liens évidents entre l'homme et le singe. Son mentor, Louis Leakey, l'encourageait dans ses recherches, même si la jeune femme n'avait pas de formation scientifique. Il estimait que son inexpérience constituait son principal atout et lui permettait d'avoir un esprit clair et libre de tout préjugé théorique. Elle obtient tout de même un doctorat à l'Université Cambridge dans les années 1960, même si elle ne possédait préalablement aucune formation universitaire. Nous avons été tellement arrogants. Elle consacrera une bonne partie de sa vie à observer des chimpanzés dans leur environnement naturel, plutôt que de les étudier en captivité. Selon le paléontologue américain Stephen Jay Gould, les travaux de Jane Goodall constituent l'une des plus grandes réalisations scientifiques du monde occidental. « Plus je restais là-bas, disait-elle, plus je voyais à quel point ils nous ressemblent. Nous avons été tellement arrogants de penser que nous étions si spéciaux. » Elle a aussi créé un précédent dans les années 1960 en devenant l'une des rares femmes à étudier une espèce animale sur le terrain. Les autorités de la Tanzanie avaient d'ailleurs refusé qu'elle se rende au parc national de Gombe sans la présence d'un chaperon. Avec les primatologues Birute Caldigas et Diane Fossé, Madame Goodall est souvent présentée comme l'un des trois anges de Louis Leakey qui a encouragé ces trois femmes à étudier les grands singes, dont les gorilles, les chimpanzés et les orangs-outans. Elle a apporté la contribution la plus importante de tous les primatologues de l'histoire, a déclaré Robert Sapolsky, professeur à l'Université Stanford, en entrevue au Washington Post. Nous perdons un phare dans la nuit, mais sa vision du monde avant-gardiste restera vivante encore longtemps pour nous guider, estime le biologiste Alain Branchaud, qui dirige la Société pour la nature et les parcs, section Québec, depuis une dizaine d'années. Je retiens trois éléments importants de sa pensée. l'importance de développer une empathie envers les autres espèces, de réfléchir aux enjeux démographiques humains et surtout la nécessité absolue de garder espoir pour la suite du monde et la protection de notre planète, ajoute M. Branchaud. Elle a inspiré des générations, moi y compris, à se battre pour notre planète. Honorons son héritage en poursuivant ce combat, en nous souvenant de sa vérité. Chaque individu compte, a affirmé l'ancien ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, sur le réseau X. C'était « L'histoire improbable d'une scientifique d'exception », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 1er octobre 2025 dans la presse.
Santé Québec sévit envers les banques privées de sang de cordon. Un texte de Natacha McDonald-Dupuis, paru le 11 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Les femmes enceintes du Québec ne se feront plus proposer de payer pour entreposer le sang de cordon ombilical de leur nouveau-né, du moins pas dans les établissements de santé régis par Santé Québec. La Société d'État confirme avoir émis une directive le 30 octobre dernier afin de corriger la situation. La décision survient dans la foulée d'un reportage de La Facture sur les publicités trompeuses d'entreprises privées qui font la promotion de ce service dans des cliniques d'obstétrique et certains hôpitaux du Québec et ailleurs au pays. Dorénavant, seuls les services de la Banque publique Léma Québec, qui recueillent gratuitement des dons de sang de cordon, pourront être proposés aux patientes. Le matériel promotionnel des banques privées devra être retiré. Cette directive s'inscrit dans une volonté de protéger la population et de garantir l'accès à une information juste et exempte d'intérêts financiers. Une citation de Catherine Brousseau, porte-parole de Santé Québec. Le sang de cordon contient des cellules souches qui peuvent servir à traiter des maladies rares comme la leucémie. Les greffes de sang de cordon sont toutefois peu fréquentes et lorsqu'elles sont pratiquées, les médecins se tournent vers les banques publiques comme Emma Québec. Les banques privées, elles, proposent aux parents d'entreposer le sang de cordon de leur enfant pour un usage exclusif. Ce service, qui peut coûter des milliers de dollars au fil des années, est présentée comme une assurance biologique. Or, les probabilités qu'un enfant reçoive un traitement à partir de son propre sang de cordon sont très faibles. En cas de leucémie, par exemple, l'échantillon doit provenir d'un donneur et non de l'enfant lui-même, afin d'éviter de réintroduire la maladie, ont expliqué des experts. L'enquête de La Facture a également montré que certaines banques privées entreposent des échantillons contaminés ou qui contiennent un nombre insuffisant de cellules pour une greffe. Les parents se retrouvent ainsi à payer pour entreposer un échantillon qui pourrait probablement ne jamais servir. De nombreux experts du domaine des cellules souches avaient dénoncé les agissements de cette industrie et des professionnels de la santé qui y collaborent. Précisons que ce ne sont pas tous les hôpitaux du pays qui cautionnent cette industrie. Depuis 2014, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal interdit à ses médecins de prélever du sang de cordon pour les banques privées afin de protéger le public. Rappel déontologique. L'hématologue oncologue spécialiste du sang de cordon, Pierre Leneuville, se réjouit de la décision de Santé Québec. C'est formidable. Ça va protéger le public. C'était vraiment la chose à faire, dit-il. La Facture avait trouvé des dépliants et des affiches promotionnelles dans plusieurs cliniques d'obstétrique de Montréal, ainsi que dans deux hôpitaux, le Centre universitaire de santé McGill et l'Hôpital général juif. Le Centre hospitalier de santé McGill a retiré les affiches mais s'est défendu en disant n'avoir reçu aucune rémunération. De son côté, l'hôpital général juif a admis qu'une entente liait certains de ses médecins à Cooper Surgical, qui détient la banque privée Cells for Life. La direction de l'hôpital a toutefois refusé de dévoiler les détails financiers de cette entente, qui est désormais échue, dit-elle. Un porte-parole du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal a cependant admis que les profits étaient utilisés pour rémunérer les médecins et pour des initiatives de bien-être pour les employés. Le Collège des médecins du Québec a depuis envoyé un rappel déontologique à tous ses membres, leur soulignant l'obligation d'exercer selon les principes de la science et à l'abri de tout conflit d'intérêts. En se prêtant directement ou indirectement à tout type de sollicitation auprès de sa patientèle, le médecin contrevient à ses obligations éthiques et déontologiques. Une citation de extrait du rappel déontologique du Collège des médecins du Québec. Cooper Surgical n'a pas réagi à la décision de Santé Québec. Pas interdite pour autant. Si leur capacité à rejoindre leur clientèle au Québec est désormais réduite, les banques privées de sang de cordon ne sont pas pour autant interdites dans la province. Elles peuvent toujours s'associer à des cliniques privées non liées à Santé Québec ou encore promouvoir leurs services sur les réseaux sociaux. L'Office de la protection du consommateur du Québec dit toutefois avoir rehaussé sa vigilance et avoir entrepris des démarches pour mettre en garde le public, dit Charles Tanguay, son porte-parole. Le reportage met en lumière une situation très préoccupante de ce qui semble être une tromperie à grande échelle. Une citation de Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur du Québec. La facture a révélé en septembre que, pour attirer les parents, certaines banques privées diffusent des informations trompeuses comme le fait que 50 000 greffes auraient été réalisées dans le monde, sans préciser que presque tous les échantillons provenaient de banques publiques. D'autres laissent entendre que le sang de cordon pourrait bientôt traiter l'autisme et d'autres conditions neurologiques, même si aucune preuve scientifique ne vient appuyer cette affirmation. Charles Tanguay rappelle que la loi sur la protection du consommateur permet de sanctionner non seulement le commerçant qui fait des représentations fausses ou trompeuses, mais également la personne qui publie ou diffuse le message. Certaines entreprises collaborent en effet avec des influenceuses sur les réseaux sociaux. OVO Bioassurance, la seule banque privée dont le siège social se trouve au Québec, se défend d'induire ses clients en erreur et soutient que des essais cliniques en cours pourrait permettre d'utiliser le sang de cordon pour traiter davantage de maladies dans le futur. Au-delà de ses bénéfices médicaux potentiels, la conservation privée du sang de cordon représente un geste de prévoyance et de responsabilité familiale. Cette décision garantit la disponibilité immédiate de cellules souches génétiquement compatibles, susceptibles de servir à de futurs traitements innovants, écrit la compagnie par courriel. Ailleurs, au Canada. Pour l'instant, aucune province n'a manifesté l'intention de suivre l'exemple du Québec. En Ontario, notamment, les banques privées de sang de cordon demeurent nombreuses et très actives. Le Dr David Mitchell, chef des greffes de cellules souches pédiatriques à l'hôpital de Montréal pour enfants, estime que les autres provinces gagneraient à s'inspirer du Québec. La décision de Santé Québec est une excellente nouvelle. Il est temps que les mêmes principes s'appliquent partout. La désinformation médicale n'a sa place dans aucune province, dit-il. Ouvrir en mode plein écran, le bureau de vente d'inspection LifeBank, installé dans le département d'obstétrique de l'hôpital Mount Sinai. Photo, Radio-Canada, Natacha MacDonald-Dupuis. L'industrie connaît des déboires ailleurs au pays. À Edmonton, la banque privée Canadian Cord Blood Biorepository a été sanctionnée par Santé Canada pour de graves problèmes de salubrité. Depuis 2023, cette entreprise n'a plus le droit d'accepter de nouveaux clients, bien qu'elle continue de facturer des frais à ses clients existants pour l'entreposage d'échantillons potentiellement contaminés. Des clients de Canadian Cord Blood ont confié à la facture n'avoir reçu aucune communication de la part de l'entreprise quant à l'état de leur échantillon. Canadian Cord Blood Biorepository n'a pas répondu à nos questions sur le sujet. Le Bureau de la concurrence, qui réglemente la publicité trompeuse au Canada, dit avoir pris connaissance de la situation, mais ne confirme pas si une enquête a été ouverte. Dans certains pays, comme la France, les banques privées de sang de cordon sont interdites. C'était Santé Québec sévit envers les banques privées de sang de cordon. Un texte de Natacha MacDonald-Dupuis, paru le 11 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Pour alimenter le feu de la lecture, un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 9 octobre 2025 dans la presse. Je sors du café galvanisé. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu des conversations si intéressantes avec de purs inconnus. Je suis stimulée. J'ai envie d'acheter une tonne de livres. Je viens de toucher à quelque chose de précieux. Marie-France Coé le constate. Beaucoup de gens cherchent à retrouver le goût de lire. C'est en partie pour eux qu'elle a créé les événements Sip and Read. Chaque mois, une vingtaine de personnes se rassemblent pour discuter d'un livre qui les a marqués. Contrairement à ce qui se fait dans bien des clubs de lecture, les participants ne plongent pas dans le même ouvrage. Tu as lu quelque chose que tu as adoré ou détesté, puis tu as absolument besoin d'en parler, alors tu viens à Sip and Read, explique Marie-France Coé. Professionnelle en finance, la jeune femme a toujours été une grande lectrice. Elle partageait ses coups de cœur avec une petite communauté sur Instagram quand elle a eu envie de jaser littérature avec des humains en chair et en os. Le problème, c'est qu'elle n'aimait pas l'idée des ouvrages imposés. Elle préfère de loin choisir des livres en fonction de ses besoins du moment. Pourquoi ne pas faire des rencontres littéraires dans lesquelles chacun arrive avec son livre ? S'est-elle demandé. En décembre 2023, elle organisait le premier rendez-vous Sip and Read. Elle a dû prendre une pause en 2024 pour écrire son mémoire de maîtrise, mais depuis, les événements mensuels se déploient à tour de rôle à Ottawa où elle habite, à Gatineau et à Montréal. D'ailleurs, elle cherche toujours la dénomination française à adopter pour ses événements sur le sol québécois. Des participants lui ont proposé Sirotte et Lee, mais elle n'est pas convaincue que ce soit accrocheur. Grâce à elle, des francophones et des anglophones de tout âge et de tout horizon se rencontrent pour discuter de livres. Selon Marie-France Coé, il s'agit d'une excellente façon de renouer avec l'habitude de la lecture. D'abord, parce qu'en sortant d'un événement, on cherche déjà dans quel livre plonger pour le mois suivant. Ensuite, parce qu'on lit en sachant qu'on pourra bientôt prolonger nos réflexions avec autrui. Je m'apprête à vivre l'expérience dans le cadre du 10e événement Sip and Read qui se tient au café Simplement Fait à Montréal. Dan Gnow en est pour sa part à sa 4e participation. Aujourd'hui, elle agit à titre de bénévole pour guider les nouveaux venus. Quand je lui demande ce qui l'attire ici, elle me répond. Le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des goûts complètement différents des miens, ça alimente bien le feu de la lecture. On rencontre des gens, mais on rencontre aussi des livres. Je souligne qu'elle a le sens de la formule. Travaille-t-elle en pub ? Non, en génie. Dané m'assigne une place. Je me joins à une table où placotent déjà 3 personnes. Je souris quand Henri-Robert Sully m'explique qu'il est ici parce qu'il a perdu l'habitude de lire et qu'il souhaite la retrouver. Marie-France disait donc vrai. En général, il n'y a pas de thème imposé aux événements. Mais aujourd'hui, Fabrice Ville viendra présenter son livre « Bon gazon ». Alors, on nous a demandé de choisir des ouvrages tirés de la littérature noire. On en discutera en mangeant une crêpe et en sirotant une boisson chaude, le repas étant inclus dans le prix d'entrée de $30. Le processus est simple. La vingtaine de participants est répartie en 3 tablées. Chaque personne a 7 minutes pour présenter l'œuvre qu'elle a choisie à ses compagnons de table. Pour bien se préparer, on a préalablement reçu un guide de présentation. On sait donc qu'on doit résumer l'œuvre, mais surtout exposer ce qu'elle nous a fait ressentir et les leçons qu'on en a tirées. Après ces 7 minutes de monologue, on a 6 minutes pour discuter ensemble. Des cartes posées sur la table nous proposent des questions au cas où la gêne s'emparerait de nous. Comme je le constaterai bientôt, elles ne servent pas tellement. Les gens sont inspirés et inspirants. Lucas Navarro, le bénévole assigné à notre groupe, s'assure du bon déroulement de l'activité. Chronomètre en main, il invite Lauren Hundekorn à ouvrir le bal. Elle nous parle avec enthousiasme de la saga familiale « Le fils de la maison » de l'autrice nigériane Chelucci Onyomelukwe. Elle nous explique avoir reconnu des gens de son entourage dans des situations tragiques qui sont dépeintes. On découvre, grâce à elle, le poids des traditions patriarcales qui pèsent sur certaines communautés. Deuxième livre au menu, « Une si longue lettre » de l'autrice sénégalaise Mariama Ba. Un roman épistolaire sur la vie de femme et de mère. Déjà, des liens se tracent entre les œuvres. On discute de sororité et de féminisme. On en vient à réfléchir à la hiérarchie de l'amour qui place injustement la romance avant les amitiés. C'est un excellent samedi après-midi. Puis, Les participants nous parlent à tour de rôle des romans « Le Comte de Monte-Cristo » d'Alexandre Dumas, qui a des origines haïtiennes, « Little Rot, 48 heures dans un party sexuel au Nigeria », tel que les a imaginés Akwaeke Emezi, et « Le sang des innocents », un thriller signé S.A. Cosby. De mon côté, j'ai choisi « Laisser balance ton corps » de Bébé Melchor Kadior, aussi éclairant que confrontant. On discute d'injustice et de dynamique de pouvoir, des systèmes dont on est prisonnier, puis de la honte comme outil de contrôle. On se demande si nous, on a la possibilité de changer les choses. Je n'en reviens pas d'avoir une conversation si stimulante avec cinq personnes que je ne connaissais pas il y a 2 heures. J'ai envie de lire tous les ouvrages dont elles ont parlé, mais j'ai aussi envie d'être leur amie. Mission accomplie pour Marie-France Coway. J'essaie de réunir des gens qui n'allaient peut-être jamais se rencontrer. C'est assez incroyable ce qui se passe. Tu lis un livre et des connexions en découlent. Des participants sont même devenus colocataires. Un espace qui favorise l'amour de la lecture et de l'autre. Où est-ce que je signe ? C'était, pour alimenter le feu de la lecture, un texte de Rose Aimée Autonne Témorin, paru le 9 octobre 2025 dans la presse.
La musculation est excellente pour la santé osseuse. Un texte de Hunter Bennett, paru le 14 novembre 2025 dans La Conversation. Vous avez peut-être entendu dire que les activités à impact élevé, telles que la course à pied, le saut, le football et le basketball, sont bonnes pour renforcer la densité et la solidité osseuse. Mais qu'en est-il lorsque vous êtes immobile, en train de soulever des poids dans une salle de sport? La bonne nouvelle, c'est que la musculation est excellente pour la santé osseuse. Mais certains exercices sont plus efficaces que d'autres. Voici ce qu'en dit la science. Qu'est-ce que la densité osseuse? La densité osseuse, également appelée densité minérale osseuse, est essentiellement une mesure de la quantité de minéraux, tels que le calcium et le phosphore, contenus dans vos os. Elle vous donne une indication de la solidité de vos os, ce qui est important car les os plus denses sont généralement moins susceptibles de se fracturer. Cependant, la densité osseuse n'est pas tout à fait la même chose que la résistance osseuse. Les os dépendent également d'une série d'autres composés, tels que le collagène, pour assurer leur soutien et leur structure. Ainsi, même des os denses peuvent devenir fragiles s'il manque de ces composants structurels essentiels. Cependant, la densité minérale osseuse est toujours considérée comme l'un des meilleurs indicateurs de la santé osseuse, car elle est étroitement liée au risque de fracture. Bien qu'il existe probablement une composante génétique dans la santé osseuse, vos choix quotidiens peuvent avoir un impact important. Qu'est-ce qui affecte votre santé osseuse? Des recherches montrent que plusieurs facteurs peuvent influencer la solidité et la densité de vos os. Le vieillissement. Avec l'âge, notre densité minérale osseuse a tendance à diminuer. Ce déclin est généralement plus important chez les femmes après la ménopause, mais il touche tout le monde. La nutrition. Consommer des aliments riches en calcium, en particulier les produits laitiers, mais également de nombreux légumes, noix, légumineuses, œufs et viande, a un impact limité sur la densité osseuse, bien que l'ampleur de la réduction du risque de fracture ne soit pas claire. L'exposition au soleil. La lumière du soleil aide votre corps à produire de la vitamine D, qui facilite l'absorption du calcium et a été associée à une meilleure densité osseuse. L'exercice physique. Il est bien établi que les personnes qui pratiquent des exercices à impact élevé et à forte charge, tels que le sprint et la musculation, ont tendance à avoir des os plus denses et plus solides que celles qui n'en font pas. Le tabagisme. Les personnes âgées qui fument ont généralement une densité osseuse plus faible que celles qui ne fument pas. Pourquoi l'activité physique améliore-t-elle la densité osseuse? Tout comme vos muscles se renforcent lorsque vous les soumettez à un effort, vos os se renforcent lorsqu'ils sont soumis à une charge plus importante. C'est pourquoi l'exercice physique est si important pour la santé osseuse, car il incite vos os à s'adapter et à se renforcer. Nous sommes nombreux à savoir que les personnes à risque de perte osseuse, à savoir les femmes ménopausées et les personnes âgées, doivent privilégier l'exercice physique pour préserver leur santé osseuse. Cependant, tout le monde peut tirer profit d'un exercice physique ciblé et il est sans doute tout aussi important de prévenir le déclin de la santé osseuse. En fait, que vous soyez un homme ou une femme, plus vous commencez jeune, plus vous avez de chances d'avoir des os plus denses à un âge avancé. C'est essentiel pour la santé osseuse à long terme. La musculation améliore-t-elle la densité osseuse? Oui. L'un des exercices les plus efficaces pour la santé osseuse est la musculation. Lorsque vous soulevez des poids, vos muscles tirent sur vos os, envoyant des signaux qui encouragent la formation de nouveaux os. Il existe de nombreuses preuves montrant que la musculation peut améliorer la densité osseuse chez les adultes, y compris chez les femmes ménopausées. Mais tous les exercices ne se valent pas. Par exemple, certaines preuves suggèrent que les exercices composés qui sollicitent davantage le squelette, tels que les squats et les soulevés de terre, sont particulièrement efficaces pour augmenter la densité de la colonne vertébrale et des hanches, deux zones sujettes aux fractures. Quel type de musculation est le plus efficace? On pense que soulever des poids plus lourds donne de meilleurs résultats que soulever des poids plus légers. Cela signifie que faire des séries de 3 à 8 répétitions avec des poids lourds aura probablement un plus grand impact sur vos os que faire de nombreuses répétitions avec des poids plus légers. De même, vos os ont besoin de beaucoup de temps pour s'adapter et devenir plus denses, généralement 6 mois ou plus. Cela signifie que pour avoir des os en bonne santé, il vaut mieux intégrer la musculation à votre routine hebdomadaire plutôt que de la pratiquer de manière intensive pendant quelques semaines. Les exercices qui utilisent le poids du corps, tels que le yoga et le pilates, présentent de nombreux avantages pour la santé. Cependant, ils sont peu susceptibles d'avoir un impact significatif sur la densité osseuse, car ils ne sollicitent généralement que très peu vos os. Si vous débutez dans la musculation, vous devrez peut-être commencer par des poids plus légers et vous habituer au mouvement avant d'augmenter la charge. Et si vous avez besoin d'aide, trouver un professionnel de l'exercice physique dans votre région pourrait être une excellente première étape. Faire de l'exercice pour la santé osseuse n'est pas compliqué. Quelques séances de musculation, intenses, par semaine, peuvent faire une grande différence. Si vous craignez d'avoir une faible densité osseuse, parlez-en à votre médecin. Il pourra évaluer si vous devez passer un scan. C'était « La musculation est excellente pour la santé osseuse », un texte de Hunter Bennett, paru le 14 novembre 2025 dans « La conversation ».